Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Avoinu sur France Culture pour ce dernier entretien avec le philosophe Clément Rosset, consacré cette fois-ci, comme il se doit, à la question de la musique et de la joie. Pourquoi ? Parce que la musique est un langage mais qui ne parle de rien. Or, ce défaut de sens est précisément son privilège, car la musique constitue du coup une irruption du réel à l'état brut. C'est pourquoi la musique est jubilatoire, selon Clément Rosset. Elle ne comble ni les attentes du corps, ni la volonté de savoir, ni même le désir d'être consolé, mais en n'exprimant rien d'autre qu'elle-même, la musique révèle, selon le philosophe, le fait miraculeux de l'existence même. De sorte que la musique, pour Rosset, c'est la réalité toute nue, c'est le réel sans mots. Et c'est donc l'occasion d'une joie sans cause, d'une joie qui, parce qu'elle ne dépend de rien, se trouve à la portée de quiconque regarde enfin le monde en face. Mais pourtant, objectivement, rien n'est moins réjouissant que l'existence. Alors, où trouve-t-on dans la vie de quoi se réjouir ? Vu le monde comme il va, est-ce que la joie n'est pas folle par définition ?
Ah oui, elle est folle, mais d'abord, la joie est effectivement un sentiment paradoxal, puisque... Il allie une considération cruelle des aspects les plus durs de l'existence et que c'est une joie à propos de l'existence. Pour moi, l'affrontement de la cruauté, de la réalité la plus terrible, et je dis, j'explique brièvement, mais j'explique pourquoi en fait la réalité est insignifiante, terrible par son insignifiance, son manque de durée, et de la mort, etc. etc. Bon. Mais la considération lucide de ce qui est absolument inacceptable, enfin qui est complètement au-delà de nos facultés d'adaptation, d'acceptation dans la réalité, est pour moi le critère et le seul vrai absolu critère, le seul indiscutable critère de ce que nous sommes saisis par cette espèce d'orgasme intellectuel ou physique aussi, qui est l'expérience de la réjouissance, de la jubilation à propos de l'existence. Pourquoi ? Ben c'est pour une raison tout à fait simple. Si je suis très heureux, mais que j'ai des raisons d'être heureux, et que je ne vois pas ou ne veux pas voir des raisons qui auraient de quoi me faire déchanter, à ce moment-là, je considère que ma joie est passagère et fondamentalement illusoire, puisqu'elle est fondée sur la représentation incomplète d'un monde réduit à ses bons moments. Donc, une joie condamnée à périr et qui manque complètement de substance et de profondeur, puisque la première considération venue pourra lui donner un démenti formel et définitif. Au lieu que, si je considère ce qui me semble être le plus cruel de la réalité et que je ressens néanmoins cette joie, c'est que cette joie ne se fonde pas sur une illusion, mais véritablement un phénomène complètement... incompréhensible, miraculeux, un état de grâce, comme dirait Pascal, ou aussi un état de grâce qui pourrait être la grâce mozartienne, n'est-ce pas, grâce à des tas de sens qui se renvoient les uns aux autres. Et là, je ne suis pas dans une illusion, c'est une véritable joie. C'est pourquoi je dis, bon, je reprends votre mot de fou, ou bien la joie est raisonnable, mais c'est pas la joie, c'est une illusion, ou bien la joie n'est pas raisonnable, et cette fois-ci, elle est paradoxale, mais vraie. C'est pourquoi il n'est de joie que de joie folle. Une joie qui n'est pas folle n'est pas une joie.
Une joie insensée.
Elle doit être déraisonnée. Et quand on parle de ça, mais j'ai la folle joie, mais ça va beaucoup plus loin que dit l'expression. La joie est folle.
Il n'y a pas de joie véritable qui ne soit folle. Mais ça veut dire, l'alternative c'est ou bien... Il nous arrive un truc sympa, et on est bien content,
hein,
et on prend ça pour le bonheur, le temps que ce truc sympa demeure.
Oui.
Puis un jour on le perd, ou alors on le possède mais on s'ennuie de le posséder, comme dirait Schopenhauer, et on recommence à souffrir en espérant autre chose. Bon, donc ça c'est le premier cas de figure de celui dont le bonheur tient à bout de bras, en dépendant d'une causalité extérieure finalement. Bon. Ou bien, on regarde le monde comme il est, la mort, la souffrance, l'injustice, le crime qui paye, etc., 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 c'est-à-dire le tragique de l'existence, ou l'existence comme une tragédie, et on est joyeux quand même.
Voilà.
C'est la joie malgré le monde ?
C'est, toute joie est folle, toute joie est joie malgré tout. C'est une joie qui s'inscrit contre toute évidence, contre toute raison. Ça a été dit par les bisticrédants. Hein. Il y a des gens comme Angelus Silesius, Maître Eckhart, ont dit des choses. Il y a une tradition chrétienne, mais pas du tout le christianisme moral, mais il y a aussi une tradition chrétienne qui soutient l'existence de cette joie absurde.
Est-ce que la meilleure façon de qualifier cette joie absurde, ça n'est pas cette citation que vous donnez à deux reprises dans votre œuvre, et en particulier à la fin de Loin de moi, de von Biberach, qui dit ceci: « Je viens je ne sais d'où, je suis je ne sais qui, je meurs je ne sais quand, je vais je ne sais où, je m'étonne d'être aussi joyeux. »
Oui, alors, bien des choses à dire sur cette formule que j'ai reprise effectivement deux ou trois fois. Il y avait eu, c'est assez curieux, d'abord, premier fait, il y a eu une discussion, j'ai connu ce texte par une revue allemande où il y avait une discussion entre Jaspers, ce philosophe chrétien, et un chrétien qui n'est pas un philosophe moins connu en France. Et tous deux se demandaient si c'était une parole d'un chrétien ou pas d'un chrétien. Et Jaspers, le chrétien, disait, c'est une joie païenne, ce n'est pas une joie chrétienne, cette joie. Et son correspondant lui disait, mais écoutez, moi je suis d'un avis contraire parce que il me semble que toute la force de la foi chrétienne repose sur, justement, cet abandon à l'absurde, cette reconnaissance du caractère surnaturel et infondé. Et c'est toute sa force. Sinon, elle peut s'écouler à tout moment, cette foi. Et je crois qu'il avait raison, celui qui discutait avec Jaspers. Alors, d'un autre côté, encore une chose, il y a un auteur qui a été considéré comme un grand chrétien, qui se considérait comme un chrétien, philosophe du 3e siècle, du 4e, je sais pas, 3e, 4e siècle de notre ère, évidemment, et qui, d'après ce qu'on le peut conseiller de lui, aurait fini par renier le christianisme et adopter, je crois, un gnosticisme, je sais pas, agnosticisme, je sais plus quoi, mais qui a écrit des livres chrétien, enfin, d'un chrétien à l'époque où il les écrivait, et avec lequel le Vatican n'a jamais su trop prendre position. Et pour moi, c'est un homme qui a écrit des choses extraordinaires. Les plus belles formules, je ne les ai pas en tête. Il y a une formule qui figure dans la nouvelle pièce de Valère Navarina et qui m'a beaucoup frappé, mais je n'en ai pas en tête. Mais en tout cas, c'est un philosophe qui disait toujours, toutes les formules tournaient, mais souvent en beaucoup plus beau, autour de la formule Credo quia absurdum.
Ben c'est Tertullien.
C'est Tertullien. Vous l'avez dit, vous élèves en Tevède, vous aurez 20. C'est Tertullien. On pourrait se demander autant de Tertullien que de Martinus von Biberach si nous avons affaire à une brebis grise ou une brebis blanche. Et il paraît qu'actuellement le Vatican est en train de rapatrier Tertullien dans le troupeau des chrétiens, et elle a tout intérêt, à mon avis, à le faire, parce que c'est un élément fort du christianisme, justement, c'est l'élément aussi pascalien.
C'est la joie inconditionnelle.
La joie inconditionnelle, c'est la grâce pascalienne.
Citez dans La Force Majeure, je vous cite Edgar Po, à un moment, il dit « Respirer seulement, c'était une jouissance, et je tirais un plaisir positif même de plusieurs sources très plausibles de peine. » Vous citez un peu plus loin Michelet.
C'est Po qui dit ça ?
Ah oui, Edgar Po dans L'Homme des Foules.
Ah, mais vous voyez, j'avais oublié. Oui, bah c'est très bien.
Vous citez aussi Michelet.
Oui, ça je me rappelle, oui.
Michelet qui a...
Il tape sur la table,
et il a une joie virile de jeunesse et d'avenir, alors que l'ennemi est à deux pas, et qu'il y a de la neige partout, et qu'on ne sait pas si le pain va venir le soir, etc. Mais enfin, il est joyeux quand même. On ne peut pas dire qu'il est content, il faut dire qu'il est joyeux, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui. Ouais, je voudrais dire une dernière chose sur Martinus von Biberach pour m'excuser auprès de mes lecteurs. J'ai raconté en tout cas à beaucoup de gens, peut-être pas par écrit. On sait toujours bien qui est ce Martinus von Biberach. Alors, après des tas d'enquêtes, Sioran m'avait complètement égaré, m'avait dit d'abord que c'était Angel Silesius. Bon, c'est Martinus von Biberach. Mais on m'avait fait croire que ce Martinus von Biberach était un auteur fin du Moyen-Âge, qui remonterait au début de la langue allemande et qui faisait des beaux métiers. Des recueils de poésie somptuaire, c'est-à-dire d'inscriptions pour mettre sur les tombes. Et que cette phrase doit être lue sur une tombe. Je m'étonne d'être aussi joyeux. Et alors, après d'autres recherches, je me suis aperçu que tout ça était un bobard. Mais je ne suis pas beaucoup plus avancé. Parce que tout ce que je peux vous dire, j'ai mis plusieurs bibliothécaires, plusieurs libraires sur la piste. Mais ce Martinus von Biberach, aux dernières nouvelles, est le personnage d'une pièce de théâtre hongroise, du 19e siècle en tout cas, 19e siècle, et où il joue le rôle d'un petit homme de cour assez cynique. Et c'est un personnage de la pièce qui dit ça. Alors, dans quel sens le dit-il? Dans quel contexte le dit-il? Il n'y a pas de traduction anglaise, il n'y a pas de traduction française, je n'en sais rien. Il est possible que Martinus von Biberach, le vrai, disent ça comme Don Juan dans Molière ou dans Mozart. Ils disent « Oh, je m'étonne d'être aussi joyeux, que ce soit extrêmement superficiel. Pourvu que je puisse tirer mon coup ce soir et que j'ai de l'argent dans mon compte en banque, ça va. Hein. »
Mais alors, est-ce que la joie, au sens où vous en parlez, n'est pas, si folle soit-elle, intégralement déductible du système qui est le vôtre, ou de l'antisystème qui est le vôtre? Parce que vous écrivez, on l'a vu abondamment cette semaine, que il y a pas de double et qu'on s'invente des doubles, or que le propre du réel c'est de n'être que ce qu'il est. Ouais. Par conséquent, comme il a pas de double, d'une certaine façon, le réel ne manque de rien. Quand on hallucine un double, un monde parfait, un monde idéal, un autre monde possible, etc., etc., on le fait toujours en disant voilà ce dont nous manquons ici. Il y a ailleurs, un peu comme Descartes démontre l'existence de Dieu, une perfection. Quelque chose qui ne manque de rien, mais ce quelque chose qui ne manque de rien est toujours situé ailleurs. Vous, vous déconstruisez le double. Vous dites que rien n'est situé ailleurs, d'une certaine façon. Mmh. Et que par conséquent, le réel en lui-même est tout entier tout ce qu'il est, et qu'il ne manque de rien. Mmh. Or, dans l'objet singulier et dans la force majeure, vous définissez l'allégresse, et non plus la joie, mais je pense que ce sont des termes synonymes chez vous.
Tout à fait, oui.
L'allégresse comme l'absence du manque. Est-ce que finalement, la raison d'être de la joie, si j'ose dire, c'est de savoir...
La plénitude du réel.
C'est la plénitude du réel, c'est le refus du double, en définitive. Est-ce qu'une fois qu'on a fait son deuil du double, on n'est pas dans la joie, précisément, fatalement?
On est d'une part un peu soulagé, mais d'autre part, on a montré par là que si on a renoncé au double, on avait la force de s'accommoder d'existence quelle qu'elle puisse être, et par conséquent qu'on a été doté d'une résistance au malheur qui s'appelle la joie, effectivement. Seulement, c'est pas évident pour tout le monde. Le fait de savoir que le réel se suffit à lui-même et ne manque de rien est une catastrophe. Au contraire, vous l'avez très bien dit à l'instant. Mais je remarquerai néanmoins que l'atelier de fabrication des doubles, des doubles au sens où je l'entends, hein, du double hallucinatoire, n'est pas seulement, il l'est en partie, bien sûr, et il est souvent l'expression de la constatation d'un manque. Baudelaire se rend, tout le monde a répété, ajouter l'autre moitié, quoi. Ça va pas comme ça. C'est comme si on était avec un moteur avec un seul côté. Bon.
Sioran disait, donnez-moi un autre monde.
Non,
ou je succombe.
Je crois.
Et Baudelaire, c'est le fameux poème, c'est Anywhere.
Anywhere,
out of the world.
Ce que je cite tout le temps, oui, bien entendu. Mais il faut préciser que la fabrication du double, c'est pas seulement. Ça peut provenir de deux phénomènes. Un, celui que vous avez dit, c'est-à-dire le réel est manquant. Il manque à sa place, comme dirait Lacan à propos de la lettre volée d'Edgar Poe. Et puis il manque de raison d'être, de finalité, etc. Et il manque par tous les malheurs, sans raison, etc. Mais une autre production du double, c'est d'éviter le réel. C'est pas que le réel manque, c'est que le réel est beaucoup trop présent. Et que pas, tout mais pas ça. Si, par exemple, vous imaginez qu'on peut contourner la guillotine et passer à droite et pas aller monter sur la guillotine, c'est des pas parce que vous trouvez que la guillotine manque de quelque chose. Elle manque peut-être de son supplicié. Mais une des principales sources, il y a deux sources du double. Compléter le réel ou
le fuir.
Fuir le réel.
Il y a quand même un outil à cette joie folle. Un argument permanent à cette joie folle. Schopenhauer, à la fin du monde comme volonté, comme représentation, on en a parlé l'autre jour, mais Schopenhauer explique que la contemplation esthétique le soulage de la souffrance. Vous faites pareil avec la musique, à ceci près que la musique ne prive pas de la souffrance, mais procure la joie.
Oui. Chez Schopenhauer, ça sera différent. Encore que chez Schopenhauer, c'est très compliqué. J'admire Schopenhauer pour avoir été le premier à donner de l'importance qu'il a donnée à la musique. Mais effectivement, comme tout art, même le plus éminent des arts, la musique soulage. Ce qui est étonnant, et que Schopenhauer n'explique jamais, ce que je tente d'expliquer dans l'esthétique de Schopenhauer, c'est que, au fond, la musique est l'expression directe du vouloir vivre. Hein, c'est ça. C'est pas telle forme particulière, c'est le vouloir vivre en général. Or, le vouloir vivre en général, c'est la source du désir et de la souffrance. Comment la représentation de la souffrance procure-t-elle une libération? C'est un grand mystère qui n'a jamais été bien abordé et qui, à mon avis, est présent dans la théorie de Schopenhauer.
Est-ce que la grande différence entre Schopenhauer et vous, ça n'est pas que chez Schopenhauer, que ce soit la musique ou la peinture, la contemplation esthétique suscite l'interruption d'un malheur, alors que chez vous, C'est plutôt l'irruption d'un
bonheur. Ah, bien entendu, c'est la principale différence. Mais je signalais l'autre aussi parce qu'il y a une étrangeté dans la thèse de Schopenhauer. Mais alors, effectivement, pour moi, la musique est une espèce de... Alors, je parle à titre entièrement personnel, hein. Bien que des gens comme Nietzsche et Schopenhauer aient pu éprouver des choses très voisines. Mais la musique est un catalogue. Je m'en suis expliqué un petit peu dans l'objet singulier, justement, où il y a tout un chapitre sur la musique. La musique est un catalyseur qui rend le... Il permet l'éclosion de l'allégresse et qui, une machine un peu comme la machine d'Orphée, apaise les animaux et les rend heureux, la musique adoucit les mœurs, bon, mais il faut aller beaucoup plus loin. La musique procure un bien-être et fait qu'on est tout à coup très très content de vivre et on trouve qu'on a eu bien tort de s'en plaindre. Je voudrais rappeler le mot de Nietzsche, sans la musique, la vie serait une erreur. Oui. Et si Nietzsche dit cela, c'est qu'il considère que les conditions pour l'affirmation absolue de type spinoziste sont remplies de manière absolue, immédiate, totale par l'expérience musicale. Ce qu'il explique aussi à la fin du Zarathoustra, le chant de l'ivresse. Je pense à ce mot, j'ai découvert la vérité des vérités, là, c'est le chant de l'avant-dernier chapitre de Zarathoustra, de passage, la joie est plus profonde que la tristesse. Pour moi, s'il fallait limiter l'œuvre de Nietzsche à un mot, je la limiterais à ce mot-là. Hein.
C'est un moment dans l'objet singulier, vous dites, ce n'est pas l'envie de danser qui suscite la musique, mais la musique qui suscite l'envie de danser.
Tous les danseurs le savent.
Mais, oui, mais ça veut dire que la musique est première, d'une certaine façon.
La musique est première.
Ça veut dire que la musique n'est pas un remède à un mal déjà existant. La musique est une donnée fondamentale.
C'est un autre monde qui sert de catalyseur à l'amour absolu de ce monde-ci. Je vais vous citer une phrase qui, dans le milieu de la force majeure, qui sont des variations sur Nietzsche. C'est pas Nietzsche qui parle, c'est moi qui parle de Nietzsche. Hein. J'en prends la responsabilité, je le prends sous mon bonnet. Alors j'explique que, enfin, je développe le thème que la joie de vivre est garantie dès ici-bas par l'expérience répétable à loisir de la jubilation musicale. Alors voilà cette phrase que je revendique. Car la musique est ce qui occupe tous les centres nerveux, entre guillemets, de la philosophie de Nietzsche, chez qui elle remplace exactement tout ce qui, dans tel ou tel autre système, est appelé à faire office de principe ou de fondement. Deux points. Elle, la musique, elle est ce qui répond à toutes les questions et tient ainsi lieu à la fois de théologie, de métaphysique et de physique. Elle est la révélation première qui renseigne une fois pour toutes et suffisamment sur le sens, la cause et la fin de toute existence.
Mais si la musique répond à toutes les questions, est-ce que ça n'est pas tout simplement parce que, comme vous le dites dans l'objet singulier, la musique ne parle pas ? La musique s'offre, vous le dites, à tous les déchiffrages qu'on voudra, mais elle s'oppose en revanche à toute tentative de déchiffrement. Jean Kelevitch avait une métaphore, un oxymore pour parler de la musique, il parlait de précision évasive.
Oui, à propos de Fauré surtout.
À propos de Fauré, absolument. Oui, mais alors, la musique, c'est ce qui ne dit rien et qui, du coup, d'une certaine façon, parle juste. À la différence du langage dont on a vu l'autre jour qu'il était incapable de saisir le réel.
Alors, c'est un grand mystère. Mais c'est vrai. Si la musique parlait, si la musique était expressive, si elle rendait compte de sentiments ou d'idées, ce qui n'est absolument pas son cas, contrairement à ce que s'imaginent beaucoup de musiciens ou de gens qui aiment la musique pour de mauvaises raisons, si la musique avait quoi que ce soit d'expressif, elle aurait aucun pouvoir. C'est justement dans la mesure où on ne peut absolument pas la traduire en langage, qu'on ne peut pas non plus la traduire en sentiment, en dehors de la joie évidemment, qu'on ne peut pas du tout la traduire en idée, en consolation ou n'importe quoi, et cela donne sa profondeur. Votre remarque selon laquelle l'effet musical est inséparable du fait que la musique est séparée par un fossé immense du langage. Cette réflexion explique la vérité et la profondeur du mot célèbre d'Igor Stravinsky. Je considère pour ma part la musique par essence comme incapable d'exprimer quoi que ce soit.
C'est dire donc que si la joie est joie malgré le monde, si elle est cette espèce de réjouissance impensable qui part non pas de la négation du monde vers un autre monde, à la façon dont on pourrait se droguer ou croire en Dieu ou ce qu'on veut, si la joie c'est plutôt l'affirmation du réel dans sa totalité tragique, eh bien la musique est le meilleur biais pour nous conduire vers la joie ou la meilleure façon de s'y trouver d'emblée.
De catalyse. Mais ça, il s'agit bon d'une.
Dans la mesure où elle ne dit rien.
Dans la mesure où elle ne dit rien. C'est un bonheur sans cause. Un bonheur absolu et sans cause. Et je crois qu'il n'y a pas de bonheur aussi parfait qu'un bonheur qui n'a pas de cause. Il n'a pas de raison de s'arrêter, ce bonheur-là. Il est pour l'éternité, puisqu'il n'est pas causé. La cause ne va pas cesser. Hein?
Ça veut dire que tout ce qui est de nature à nous attrister, par exemple la perspective d'avoir à mourir, ou bien le fait d'avoir perdu un proche, ou bien toute tragédie qu'on peut vivre au quotidien, ou toute déception, même professionnelle, sais-je, etc.
Tout ça n'est pas oublié, mais ça ne compte plus. C'est dans la mesure où on y pense sans douleur, justement, et que nous avons la présence d'un état de béatitude absolue, qui n'est voilé par aucune ombre, puisque tout ce qui peut effectivement porter une ombre est néantisé par l'intensité du bonheur incompréhensible, livré par l'audition musicale. Bon, évidemment, il y a des gens que la musique fait pleurer de tristesse, on peut être sensible à la musique de mille façons. Mais en tout cas, celle qui est la mienne et me semble extrêmement proche de la manière dont Nietzsche ressentait la musique.
Il y a ce fameux passage dans la Nausée où Sartre parle de sa vieille tante qui lui dit combien la musique de Chopin lui avait été d'un grand secours au moment où je crois elle avait perdu son mari et il parle de tous ces gens qui croient que la musique leur est compatissante, les cons, dit-il.
Il a raison. Il a tout à fait raison, mais qu'est-ce que vous voulez, même des grands musiciens, je trouve que Rachmaninoff est un beaucoup plus grand musicien qu'on le dit habituellement, mais il verse dans cette religion consolatrice de la musique.
Donc la joie n'est pas consolatrice, hein.
Du tout.
La joie n'est pas une consolation.
Elle cesserait d'être la joie si elle consolait.
Mais elle nous console
ça,
bien.
Ça, c'est une version schopenhauerienne, si vous voulez.
Mais elle nous console bien d'avoir à mourir.
Elle rend indifférent à la mort. C'est très différent.
Pour en revenir à ce que vous disiez du langage et de sa différence avec la musique qui ne dit rien, vous parlez souvent de l'équivocité du langage. Vous prenez un exemple, l'exemple de cette phrase « on est bien seul ». Alors, « on est bien seul », ça peut vouloir dire « bof, qu'est-ce qu'on est seul, on souffre de la solitude ». Ou bien « on est bien quand on est seul ».
On aime à se trouver seul. Vous êtes bien sur Radio Classique.
Voilà, c'est ça. Alors, selon qu'on met la virgule ou pas, c'est « vous êtes bien là » ou bien « vous êtes bien là où vous êtes ».
Et il joue sur les deux sens.
Voilà. Alors, finalement... Le problème du réel et le fait qu'on ne puisse pas le dire, tout cela tient au fait que le réel est finalement trop simple pour le langage, en définitive. Oui. Le langage est compliqué, le langage divise, sépare, met à distance, pose un sujet, un verbe, un complément, etc., etc. Alors que la musique renoue avec la simplicité du réel. Est-ce qu'on peut le comprendre comme ça ?
Oui, jusqu'à un certain point, parce que par exemple, cette ambiguïté, cette équivocité du langage, et qui fait la difficulté des grands textes grecs, espagnols, latins et français parfois, cette équivocité existe aussi dans la musique, mais au niveau de la technique musicale, c'est-à-dire que les mêmes notes, un même accord, selon l'endroit où il est placé, va sonner tout à fait différemment. Il y a un accord, en tout cas la ligne verticale, c'est-à-dire l'accord, des notes qui jouent ensemble, est équivoque par définition. Il sonne autrement, il dit entre guillemets, l'intérêt sonore qu'il évoque est d'une toute autre nature selon qu'il est précédé ou suivi de son contexte. Et même une mélodie, ta-ta-ta-tom, le corps parfait, quand c'est à la fin de la sonatine, le premier mouvement de la sonate de Ravel, c'est complètement inattendu. Quand c'est bon, 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 ta balle, bon, bon, ben, ça veut dire autre chose. Même la mélodie est équivoque. En revanche, là où je suis d'accord, c'est que le langage est explicateur et compliqué, alors que la musique, malgré l'équivocité technique de ses accords et de sa mélodie, pour en tenir à ces deux éléments de la musique, me paraît une chose extraordinairement simple, effectivement, par rapport à la complexité des choses que nous pouvons penser ou
comprendre. C'est-à-dire, quand on ne comprend rien à un livre, on le comprend de travers. En revanche, quand on ne comprend rien à la musique, on peut ne rien y comprendre sans la comprendre de travers.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il faut distinguer uniquement le cas des gens qui sont insensibles à la musique, alors qu'il y a encore de l'équivocité du langage. Je comprends rien à la musique, ça peut vouloir dire que ça m'intéresse pas. Ça peut aussi vouloir dire, mais je ne comprends rien à la musique, c'est-à-dire que je comprends parfaitement la musique.
Et si je comprends qu'il n'y a rien à comprendre.
Rien à comprendre, oui.
Merci infiniment Clément Rosset d'être venu nous parler toute cette semaine de votre travail de philosophe. C'était À voix nue, une série d'entretiens proposée par Raphaël Antoven, à la réalisation d'Oria Zénine, au mixage Laurent Lepreux. Enfin, je voudrais pour finir inviter ceux de nos auditeurs qui ne connaissent pas encore vos livres eh bien, à s'y plonger sans crainte. Et à cet effet, je signale que vous trouverez en ligne, sur le site de France Culture et grâce aux bons soins d'Anne-Catherine Lochard, la bibliographie exhaustive de tous vos ouvrages. Merci encore Clément Rosset, merci à tous. Thank you.